Chapitre 2 Les hasards de l'océan. Miss Margaret Drake avait étudié à l'université de Harvard. Elle avait fait plusieurs voyages en Europe. Elle avait acquis de la prudence et de la réflexion. Aussi la réponse de l'employé de la compagnie du câble ne la satisfit-elle pas. Elle commença par demander à voir le registre où étaient transcrits les télégrammes expédiés. Elle vit parfaitement ainsi que le fameux plagogramme signé de son père et adressé à l'agent de change Gibson n'y figurait pas. Mais ce n'était peut-être là qu'une coïncidence, qu'un oubli. Ce câblogramme, Gibson le lui avait montré. Il était transcrit sur un papier en tête de la compagnie du câble et portait les signes de la plus parfaite authenticité. Margaret Drake avait pu s'en assurer. La dépêche était bien arrivée à Frisco, donc elle était partie. L'enquête faite par Gilson à San Francisco avait donné des résultats concluants. Le fameux câblogramme avait été reçu par le manipulateur Howard, un employé de confiance au service de la compagnie depuis 20 ans d'ailleurs. La bande originale de papier imprimée en alphabet Morse existait encore. Oui, le câblogramme avait bien été envoyé, pas de doute possible. C'est pourquoi la réponse de l'employé d'Honolulu et l'examen du registre des télégrammes expédiés ne satisfirent nullement Margaret Drake. Elle fit demander au directeur de l'agence du Cap de bien vouloir lui accorder un entretien. Ce dernier la reçut aussitôt, écouta ses explications et commença par répondre qu'il était sûr que le fameux plagogramme n'avait pas été envoyé d'Honolulu. Pourtant, il ne refusa pas de s'assurer du fait. Les employés furent interrogés un à un, séparément, et devant Margaret Drake. Tous furent d'accord, jamais ils n'avaient expédié le mystérieux câblogramme. Impossible de douter de leur dire. Mais le directeur de l'agence du câble alla plus loin. Il télégraphia à San Francisco pour se faire donner l'heure et le jour exact, précis, de l'arrivée de l'énigmatique dépêche. La réponse arriva aussitôt. Elle révéla un fait troublant. À la minute précise où était arrivé le mystérieux message à San Francisco, la communication entre la capitale de la Californie, Honolulu, avait été interrompue. Le fait avait été noté par l'employé de service. Nul n'y avait fait attention. Les câbles sous-marins sont sujets à diverses causes d'interruption, provenant des cyclones, tempêtes, ouragans et autres météores. Dans ce cas, les transmissions se font mal ou pas du tout, le courant électrique ne passant plus à travers le câble ou se perdant en route. « Évidemment, expliqua le directeur de l'agence du câble à la jeune fille, le câblogramme en question a été forgé à San Francisco par l'employé de la compagnie qui avait connaissance de l'interruption des communications. Du moins, c'est la seule explication que je vois. Elle n'est pas très satisfaisante, puisque vous m'affirmez avoir vu la bande de papier imprimée en alphabet Morse qui porte le fameux message. Ah, il est vrai qu'on peut fabriquer une de ces bandes. Je ne le crois pas, monsieur, contesta la jeune fille, car j'ai constaté moi-même que les extrémités de la bande en question coïncidaient parfaitement avec les extrémités du message précédent et du suivant, et sans erreur possible. Le directeur s'inclina. « En ce cas, Miss, je ne vois pas d'explication possible. Mais une chose est certaine, c'est que le câblogramme n'a pas été expédié d'ici. »« Je vous crois, monsieur, » conclut la jeune fille en sincèrement. Margaret Drake, peu à peu, en arrivant après sentir qu'une terrible machination avait dû être ourdie contre son père pour le ruiner. De toute évidence, la dépêche n'avait pas été expédiée d'Honolulu. Tout concordait pour le prouver. Tout d'abord que Francis Drake n'était jamais allé aux îles Hawaï, et ensuite les témoignages des employés du câble. Comment était arrivé le télégramme? C'était ce qu'on saurait plus tard. Margaret Drake ne s'attendra pas plus longtemps à élucider cette énigme. Ce qu'elle voulait avant tout, c'était retrouver son père. Depuis bientôt 6 semaines qu'il était parti pour Chicago, en voyage d'affaires, elle n'avait plus eu de ses nouvelles. Était-il seulement encore vivant? Les faussaires qui avaient expédié ou forgé la fameuse dépêche avaient dû auparavant s'assurer que le financier ne se mettrait pas en travers de leur projet. Il avait sans doute réduit à l'impuissance, tué peut-être. Margaret Drake, malgré son gracieux visage auréolé de cheveux blonds, ses yeux bleus et sa bouche souriante, était douée d'une énergie que lui auraient enviée beaucoup d'hommes. À la pensée que son père était peut-être mort, elle ne pleura pas. Elle ne pensa qu'à le venger en démasquant ses ennemis. Comprenant qu'elle n'avait plus rien à faire à Honolulu, elle retint aussitôt une place sur le premier navire appareillant pour San Francisco. 3 jours plus tard, elle quittait la capitale des îles Hawaï à bord du paquebot américain Kalakaua. D'abord, Margaret parla peu. Elle réfléchissait. Et plus elle réfléchissait, plus elle en arrivait à cette conclusion que son père avait dû être assassiné par les auteurs de la dépêche. Dans quel but, tout cela? L'agent de change, Wilson, le lui dirait. Malheureusement, Margaret Clark ne se doutait pas que bien des jours s'écouleraient avant qu'elle revît San Francisco. Ce fut 2 jours après le départ d'Honolulu que le fait se produisit. Il était 11 heures du soir. Le Kalakaua, lancé à toute vitesse, filait sur les flots calmes du Pacifique. La plupart des passagers étaient restés sur le pont à respirer le souffle vivifiant de l'Alizée. Étendus dans leur fauteuil ou accoudés aux lisses, ils parlaient peu, bercés par le ronflement rythmique des machines. Margaret Drake, installée dans un fauteuil, regardait, sans la voir, la mer sombre que striaient de longues traînées phosphorescentes produites par le glissement des poissons. Tout était calme et silencieux. L'officier de quart, vêtu de blanc, se promenait nonchalamment d'un bout à l'autre de la passerelle, donnant à peine de distraire le regard à l'horizon vide. La terre était loin. Quant au navire, aucun ne s'apercevait. Ils sont rares dans cette partie du Pacifique. Mais s'il n'y avait ni navire ni terre, le danger n'en existait pas moins. Un danger impossible à deviner, impossible à éviter. Le dérélict est une épave. Souvent des bâtiments, aux trois quarts détruits par l'incendie ou par la tempête, sont abandonnés par leurs équipages qui les croient perdus. Et il arrive que, par suite de la nature du chargement ou de la coque, les carcasses ainsi évacuées ne coulent pas, ou plutôt elles ne descendent qu'à une faible profondeur, ce qui les rend invisibles mais non inoffensives. Semblables à des écueils flottants, beaucoup plus dangereux que des récifs, puisqu'on ne peut en déterminer l'emplacement, les terribles dérélicts dérivent, entraînés par les courants. Et malheur au navire qui les heurte, sa perte est presque certaine. Et c'était un de ces dérélicts au-devant duquel filait le Kalakaua. Un léger coup de barre à gauche ou à droite, un rien, et le paquebot y passait à côté du danger, sans que personne ne s'en doutât. Mais la fatalité veillait. À l'improviste, une formidable secousse ébranla soudain le Kalakaua, si formidable que les fauteuils furent renversés. Et à la seconde suivante, le grand navire s'inclina en même temps que la lumière électrique s'éteignait, tandis qu'une colonne de vapeur bouillante jaillissait par les grillages situés au-dessus des chaudières. Le Kalakaua avait été atteint en son centre et coulait rapidement. Sur le pont incliné, dans les ténèbres, les marins se précipitèrent vers les embarcations. Parmi les cris d'angoisse des femmes et les blasphèmes des hommes, le sauvetage s'organisa. 2 canots purent être mis à la mer, et ce fut tout. Le grand paquebot, soudain, se dressa, l'étrave menaçant le ciel, et d'un coup, disparut parmi un formidable remous, le drame n'avait pas duré 5 minutes. Margaret Drake était bonne nageuse. Renversée par la secousse, lors du premier choc, elle avait dédaigné de courir vers les embarcations. Voyant que le navire allait couler, elle s'était jetée à la mer pour ne pas être aspirée par le tourbillon causé par l'engloutissement du Kalakaua. Elle fut presque aussitôt recueillie par un des deux canots. Les survivants étaient peu nombreux, tant la catastrophe avait été soudaine. Ils étaient 40 au plus. La majeure partie du personnel de la machine avait été tuée par l'explosion d'une des chaudières. Tant bien que mal, les naufragés s'organisèrent. La mer était calme, heureusement. Margaret Drake, en compagnie des autres femmes, s'installa à l'arrière du canot sous un prélat goudronné. Le restant de la nuit s'écoula sans incident. Au jour, les naufragés, à leur grande surprise et à leur encore plus grande satisfaction, aperçurent dans l'est un grand schooner qui filait dans leur direction. Un mât fut dressé, des pavillons y furent hissés, les hommes saisirent les avirons et lancèrent les deux canots à la rencontre du bâtiment d'inconnus. Pendant une heure, les survivants du Kalakaua passèrent par de terribles alternatives d'angoisse et d'espérance, se croyant tour à tour sauvés ou abandonnés. Ils furent sauvés. Le schooner était un bâtiment américain, le Black Seal, de Los Angeles, en route pour les îles Bonin, où il devait se ravitailler en eau douce avant d'entreprendre sa campagne annuelle de pêche aux phoques dans les mers du Japon septentrional. Son capitaine accueillit charitablement les naufragés et leur fit donner des vivres et des vêtements. Mais ce fut en vain que Margaret Drake et les autres passagers du Kalakaua lui proposèrent une forte somme pour changer la route de son navire et les emmener à San Francisco. Le marin ne voulut rien entendre. « Bon, je vous déposerai à Imashima, aux îles Bonin, déclara-t-il péremptoirement. Vous y trouverez rapidement un navire qui vous transportera au Japon. Il vous sera facile de regagner Frisco. » Il fut impossible de le sortir de là. Les survivants du Kalakaua durent faire contre mauvaise fortune bon cœur, heureux après tout de s'en tirer avec leur vie sauve. Margaret, cependant, ne s'avoua pas battue. S'étant fait connaître au capitaine du Black Seal, elle lui offrit 20 000 $ pour faire route sur l'Amérique. Mais ses offres furent aussi vaines que celles de ses compagnons. « Vous m'offririez 1 000 000 $, miss, fit l'entêté marin, que je refuserais. Je suis parti pour une campagne de pêche aux phoques et je pêcherai des phoques. » Margaret, la rage au cœur, dut se résigner comme les autres. Pendant 23 jours, elle vit l'eau glisser lentement le long des flancs rugueux du schooner. Mais que se passait-il pendant ce temps? Que devenait son père? Quelle nouvelle infamie préparaient les mystérieux envoyeurs du câblogramme? Il fallait s'armer de patience. Le 24e jour qui suivit l'arrivée des naufragés du Kalakaua à bord du schooner, le Black Seal entra dans la baie d'Imashima, une des îles Bonin. Margaret distingua une vaste plage de corail pulvérisé et de hautes collines recouvertes de broussailles. Une douzaine de navires étaient ancrés dans la rade. Tous, sauf un, étaient des goélettes américaines et canadiennes venues, comme le Black Seal, pour se ravitailler avant de partir pour la pêche aux phoques dans la mer de Bering. Parmi eux se distinguait un petit yacht à vapeur tout blanc, à cheminée jaune, et à l'arrière duquel flottait le pavillon allemand. Il semblait désert, du moins personne ne se voyait sur son pont. Margaret le regarda d'un œil distrait. Un yacht? Oh, que lui importait! Ce qu'elle désirait, c'était un navire, pouvant la ramener rapidement en Amérique. En compagnie des autres naufragés du Kalakaua, elle s'embarqua dans un sampan qui, en quelques minutes, la conduisit à terre. Les rescapés eurent vite gagné l'unique auberge du village, une grande paillote recouverte de chaume, ou plutôt rudimentaire, en fait de confortable. Margaret, qui heureusement avait conservé quelques centaines de dollars en billets de banque sur elle, réussit à se faire donner une petite chambre qu'elle partagea avec une des passagères du Kalakaua qui était souffrante. Elle passa le restant de la journée à s'enquérir d'un navire partant pour l'Amérique. Elle apprit ainsi que le yacht ancré en rade se nommait l'Adler et allait appareiller pour les îles Salomon en croisière de plaisance. Inutile donc de demander à son propriétaire de la prendre à bord. Le gouverneur de l'île, un petit fonctionnaire japonais, déclara à la jeune fille qu'elle pouvait espérer, avant un mois, trouver une place sur le vapeur qui relie les îles Bonin au Japon. Gaie perspective, vraiment. Mais il n'y avait rien d'autre à faire. Le soir, exténuée et désespérée, Margaret Drake regagna l'auberge et se coucha après un léger dîner. Malgré ses soucis, elle s'endormit rapidement. Un râle sourd la fit sursauter. Elle eut le temps de distinguer le jet lumineux d'une lampe électrique de poche que tenait un géant. Elle vit deux hommes se précipiter sur elle, tandis qu'un troisième retirait le poignard qu'il venait de planter dans la poitrine de sa compagne de chambre. La jeune fille voulut crier, mais un des hommes lui appuya sa large main sur la bouche, tandis que l'autre rapidement l'enveloppait d'une grande couverture. En un clin d'œil, la malheureuse fut ligotée, bâillonnée et saucissonnée dans le tissu épais. À demi étouffée et tremblante d'angoisse, elle comprit qu'on l'emportait. Une sensation de fraîcheur lui apprit qu'elle n'était plus dans l'hôtellerie. Pendant quelques minutes, elle sentit qu'on l'emportait à grands pas. Elle entendit quelques mots prononcés en allemand et fut déposée sur un plancher mouvant en qui elle devina le fond d'une embarcation. Elle entendit le grincement des avirons contre les tolets. Une voix nette et calme parvint à ses oreilles. « Desserre un peu le baillon et enlève-lui la couverture, Otto. Il ne faut pas qu'elle étouffe. Nous risquons plus rien maintenant. »